est en mission pour le Seigneur.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Salut Yann.
Heureux de vous retrouver pour une nouvelle Metal Story consacrée à une jeune artiste ultra talentueuse, Sun. Bonjour Sun.
Bonjour.
Alors pour faire les présentations, je vais commencer par dire que Sun est une artiste solo. C'est vrai que tu es toute seule, mais tu as quand même des copains pour jouer avec toi en groupe, notamment en live. Donc tu écris, tu composes, tu produis ta musique toi-même, donc bravo. Alors tu es d'origine franco-allemande et tu as grandi en Forêt-Noire. Peut-être que tu es fan de black metal aussi. on en reparlera.
Ou de Forêt-Noire, le gâteau.
Ou de Forêt-Noire, voilà, ou du dessert.
La vraie, parce qu'il y en a une vraie et une fausse.
Donc. Exactement. Donc, jusqu'à tes 15 ans, tu étais en Allemagne. Et puis ensuite, tu es venu en France, notamment. Et tu as créé un nouveau style, un nouveau genre, la brutal pop. Ou le brutal pop, je ne sais pas comment on dit, si c'est genré ou pas. En tout cas, c'est un style qui mêle de la pop mainstream, parce que tu es fan de pop, on va le voir. Du rock, du métal, avec des mélodies assez catchy, un univers visuel assez coloré. Tu growls, ça c'est génial. Double pédale, voilà. Enfin, vraiment, tu mélanges les genres, et c'est ça qui est assez fascinant dans ton travail. On pourrait dire que tu es une sorte de synthèse entre l'enfant caché de Saint-Vincent, qui est le nom donc artistique de l'auteur, compositrice, interprète américaine Anne-Erin Clark, et Gojira. Voilà, je ne sais pas si c'est une définition qui te conviendrait, voilà, à définir.
Ouais, pourquoi pas.
Voilà, et pour finir sur les présentations, donc, ton nom, hein, qui est un peu mystérieux, est un hommage à ton papa, disparu à la veille de tes 6 ans. Et c'est vrai que tu racontes qu'en effet, c'était, sur sa tombe, il y avait un tournesol, mais la tombe a disparu, donc... pour que globalement sa mémoire reste vive et le fait de t'appeler Sun, ça évoque ton papa tout simplement, donc c'est assez poétique.
Ouais.
Avec des chansons, des textes, hein, qu'on aime beaucoup avec Pascal, qui évoquent violence, grands sentiments, la peine, la joie, l'amour, enfin la vie quoi.
Ouais.
Et signaler également à nos auditeurs que tu as aussi une activité de comédienne dans le théâtre et dans le cinéma, et on a pu te voir notamment dans le long métrage de Tony Gatliff, Tom Medina, sélection officielle du Festival de Cannes, hein, quand même, en 2021, dans lequel tu as joué le rôle de Stella, chanteuse-guitariste. Tu étais vraiment dans ton rôle.
Ouais.
Et tu as d'ailleurs composé 5 titres de la bande originale du film.
Ouais.
Donc, c'est top. Et juste saluer le fait que tu es lauréate du FER 2021, que tu as collaboré aussi avec des mixeurs comme Andrew Sheps,
ouais.
Qui a travaillé pour Adele, Beyoncé, Metallica, les Red Hot, qui lui-même a été récompensé de 3 Grammy. Et puis, tu as notamment Vicky Hamilton,
ouais,
comme manageuse, qui a découvert les Guns et qui travaille avec aussi Motley Crue, entre autres. Hein, voilà. Donc, génial, on est ravis de t'avoir et on est parti pour la première rubrique, le premier chapitre, le chapter 1 de Metal Story.
Les origines du mal.
Oh.
Ma chère Sun, l'idée de cette rubrique, c'est de revenir un petit peu aux origines de ta découverte des musiques un peu amplifiées. Qu'est-ce qui a été le premier son pour toi? Qu'est-ce qui a été la première musique qui t'a marqué quand tu étais plus jeune? Alors du coup, tu étais en Allemagne, c'est ça?
Ouais.
Et voilà, quel a été le premier groupe, les premières sonorités?
Alors, le tout premier artiste qui m'a marqué, c'était Michael Jackson, mais j'avais genre 7-8 ans.
Mmh.
Et c'était vraiment parce qu'à la télé en Allemagne, on avait en tout cas à l'époque beaucoup de chaînes musicales avec des clips et tout ça. Et que j'ai vu Michael Jackson en live au Hockenheimring en Allemagne. Voilà, donc j'ai vu ça quand j'étais toute petite. Donc ça m'a marqué. Donc j'avais déjà un peu envie, j'étais attirée par notamment les prods, parce que moi j'ai découvert donc sur le tard évidemment, donc j'ai découvert par l'album History.
Ouais.
Et le morceau Scream, où c'est lui, le duo entre lui et sa sœur,
ouais,
qui est surproduit, mais c'est génial parce qu'il y a plein de couches de prod, il y a une espèce de chime sur la caisse claire. Et déjà à l'époque, je me disais, mais comment, c'est quoi toutes les couches, il y a des chœurs de fou. Donc déjà, voilà, la prod, ça m'intriguait. Et puis ensuite, quand j'avais 12 ans, j'ai vu Hole à la télé, j'ai vu Courtney Love. Et voilà, là, c'était le ticket de sortie. En fait, j'étais en Forêt-Noire, dans un bled paumé, vraiment, où il n'y avait rien, où c'était compliqué pour une franco-allemande. En plus, parce que c'était quand même le sud de l'Allemagne, c'est très conservateur, c'est... Voilà. Donc j'ai vu Hall et je l'ai vu avec sa guitare là et ça m'a donné trop envie. Et donc tout a commencé avec Hall.
Avec Courtney.
Ouais, avec Courtney. Voilà,
Et chez toi, dans ta famille, c'était il y avait une tradition musicale, il y avait des sons qui passaient, c'était déjà rock, ça l'était pas du tout.
Alors c'était pas du tout rock. J'ai une maman donc française qui chante. Elle a toujours chanté. À côté de ses autres métiers, mais en semi-pro, donc elle faisait des plans payés les week-ends et tout ça, chansons françaises, variétés. Mmh. Donc moi, toute petite, je chantais. Elle dit que je chantais avant de parler volare, je sais pas si c'est vrai. Voilà. Et j'avais un papa, donc mon papa qui a inspiré aussi mon nom de scène, quoi. Qui était un businessman allemand, qui m'emmenait dans sa Merco à 200 à l'heure, parce que voilà, sur l'autoroute en Allemagne, tu peux faire ça. Et qui me faisait écouter des trucs un peu disco. Disco anglais, 80s, électro, enfin des trucs, mais lui, c'était un passionné de zik, donc il allait chercher des choses vraiment très étranges. Et j'adorais parce que c'était que des sons chelous. Je ne saurais même pas dire ce que j'écoutais à l'époque.
En tout cas, c'était éclectique.
Très éclectique. Et puis à l'école, évidemment, moi j'ai fait piano classique. En Allemagne, c'est comme ça, tu commences super tôt. Donc j'ai fait piano classique de 5 à. Je sais pas, 11 ans.
Ouais.
Et puis là, j'ai dit. Et j'avais un prof bavarois avec la moustache retroussée comme ça, le vrai, qui me faisait peur, qui me mettait un verre de vin rouge sur le poignet pour que je fasse mes exercices sans bouger et tout ça. Et j'en ai eu marre. Et donc, à un moment donné, j'ai dit à ma mère, vas-y, montre-moi des accords à la guitare, parce qu'elle s'accompagnait à la guitare. Et ensuite, mon frère, il avait une Epiphone et il me l'a passée. Et voilà.
Et quand tu as découvert Courtney Love, après ça a switché pour toi, tu as commencé à repeindre ta chambre de posters et de.
À fond.
Et à l'effigie de Courtney et de ses comparses.
Grave, et puis aussi de m'habiller avec des collants pétés et des ceintures en guise de jupe. Et voilà, tout ça, ça n'aidait pas la réputation de ma famille dans ce petit village en forêt noire. Et surtout, en fait, c'est allé très vite parce que. J'ai découvert Courtney Love, donc les Riot Girls, L7, Babes in Toyland, mais aussi le Bikini Kill, tout ça. Luna Chicks, un peu plus hardcore, machin. Ensuite, My Ruin, Terry B, quand même, la meuf que tout le monde oublie de citer quand on parle de Scream, c'est marrant. Mais voilà, Terry B. Et puis très, très vite, en fait, j'étais très pressée. Je sentais, je pense, qu'il y avait un truc qui m'attendait. J'étais très pressée d'aller de plus en plus violent. En fait, j'ai très vite, j'ai mis un an, je pense, à découvrir mes albums préférés de Death. Et voilà, j'ai très vite fini dans le Death, en fait. Mais c'était vraiment, j'ai gratté la surface, j'ai fait waouh, 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 puis voilà.
Et ton premier achat de CD, tu te souviens?
Je crois que mon premier.
Bon, je parle plutôt rock, mais.
Ouais. Alors, rock, c'était Hall, c'est sûr. Ouais. C'était Live Through Death ou Celebrity Skin, un des deux, quoi. Et métal, je pense que ça devait. Enfin, peut-être pas métal, mais rock, c'était genre Manson, quoi.
Ouais.
Et puis. Et ensuite, j'ai acheté trop de CD. voilà, j'ai acheté plein de Scud. Mais je sais plus. Métal extrême, je pense que le premier CD ouvre. Vraiment métal extrême, ça devait être Immolation, je pense. Ouais. Close to a World Below, allez hop.
Très bien, très bien. Tu nous as proposé d'écouter un titre évidemment de Hall, de l'album Violet, le titre Violet, du même nom. C'est un titre qui t'évoque quelque chose en particulier, non?
Ouais, c'est vraiment c'est le titre qui m'a fait aimer faire du rock, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment le titre qui m'a donné envie de chanter, qui m'a montré, ah d'accord, avec un timbre comme ça, tu peux faire une carrière. C'est vraiment le titre qui m'a... Bon, qui m'a donné envie, en fait.
D'y aller, quoi.
Ouais.
Et ben, on va s'écouter ça tout de suite. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Mine is forever when they get what they want. Le titre Violet de Hole, album Violet, et on passe tout de suite à la rubrique du live After Death.
Sun, et si on parlait de live, ouais. Alors, tes premiers émois en live, quels sont-ils, notamment dans sur la scène évidemment rock metal qui nous intéresse? Est-ce que tu as des souvenirs précis? Déjà le premier concert qui t'a mis une claque?
Ouh, premier concert qui m'a mis une claque. Alors, je me souviens avoir vu... qu'est-ce que j'ai vu ? Fantomas. Fantomas, quand j'avais genre 13 ans, dans ma ville, à Karlsruhe, dans une salle qui s'appelle le Substage, qui était la salle de rock de l'époque. Et puis, j'avais probablement fait le mur. Et puis, j'étais allée avec une copine. Et c'était avec Dave Lombardo et tout, donc voilà.
Ouais, ça laisse pas indemne, ça.
Ah non, mais pas... Voilà, c'était à partir de là, je me suis dit, ok, c'est quoi toutes ces voix, c'est quoi ? Donc ça m'a foutu une grosse claque en live. Bon, franchement, je dois dire, hors rock metal, avoir vu Michael Jackson en live,
aussi,
quand même,
chapeau.
Voilà, c'est
surtout dans cette période.
Grosse expérience, ouais, complètement. Après, j'ai eu plusieurs grosses claques. Alors moi, je suis très, très, extrêmement fan de Devin Townsend. Et j'ai vu Strapping Young Lad en live, c'était au Bataclan.
Ah, quand même.
Ouais. Et...
Jamais vu, moi, sur scène.
Oi, oi, oi.
Devin Townsend, oui, mais jamais avec ce groupe.
Bah, en plus, c'était un bon soir, parce que je pense qu'à l'époque, vu que lui galérait un tout petit peu aussi... Enfin, il avait des
problèmes. Il avait des cheveux, surtout à l'époque.
Il avait... Moi, un petit peu, ouais. Il avait bah, quelques
dreads.
Il avait
des cheveux au-dessus, il avait des cheveux... Enfin, je sais pas, il avait un truc.
Quelques... Ouais, une sorte de... Ouais. Mais en tout cas, j'ai vu ça en live et... C'est fou à quel point la salle devenait ouf dès qu'ils entendaient le sample d'intro là, de All Hail the New Flesh. Pin, 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 pin. Là, on a tous pété un câble. Et là, pour le coup, Pogo de fou. Ça, c'était un gros souvenir. Après.
Et ça, c'était en France
Ouais.
Et en Allemagne, à part Michael, t'avais vu d'autres...
Fantomas.
Ah, Fantomas, voilà, c'est ça.
Ouais.
Et pas d'autres groupes de métal à l'époque, parce qu'en Allemagne, ça tournait quand même beaucoup. Hein.
Mais j'étais quand même en Forêt Noire. Ouais. Et je venais d'une famille, enfin ma mère était veuve, donc du coup on n'avait pas trop de thunes.
Ouais.
Donc je pouvais pas aller voir grand-chose. Du coup, j'allais plutôt voir des groupes locaux et moi, je tournais beaucoup en fait avec des mecs plus vieux que moi.
Mmh.
Du coup, quand j'avais 13 ans, je jouais avec des mecs qui avaient 25 ans où ma mère devait m'accompagner.
D'accord.
Pour dire voilà, elle est finie physiquement, mais non. Et voilà, du coup, c'était plutôt dans ce sens-là. Moi, j'allais jouer et quand je suis arrivée à Paris, ce qui était quand même pas le... meilleur choix au niveau rock'n'roll, quoi.
C'est sûr.
Mais c'était un très bon choix pour voir des concerts. Et là, j'ai vu Kitty. On n'en parle pas de Kitty. Tout le monde fait genre, hey, Kitty. Mais Kitty, c'était quand même mes idoles aussi à cet âge-là. Parce qu'il n'y avait pas de nana qui faisait des tournées avec Pantera ou avec Slipknot. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, donc j'ai vu Kitty, ça m'a foutu une claque. J'ai vu My Ruin, ça m'a foutu une claque. J'ai vu Cannibal Corpse, George Fisher, qui est mon chanteur préféré de Death, ça m'a foutu une claque. Enfin, voilà.
Et justement, dans le Death, qu'est-ce qui t'a plu, enfin, notamment, et que tu as retrouvé peut-être en live, c'est quoi? C'est l'énergie? C'est la brutalité? C'est...
Pour ça... le coup, pas trop l'énergie, parce qu'en live, souvent, c'est pas ouf, on va pas se mentir, parce qu'on comprend pas grand chose avec le kick tout trigué, la guitare toute creusée, enfin c'est pas très bien réfléchi pour le live, je crois. Mais moi, ce qui m'a plu, c'était notamment dans le tout ce qui est un peu death old school, tu vois, c'est le côté qui est pas encore super édité, propre et tout ça, pas très tech death. Mais moi, je me rappelle vraiment Immolation, qui est plutôt black death, mais ce genre d'album, Close to a World Below, Unholy Cult, waouh, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est inventif, c'est créatif. En même temps, il y avait vraiment une émotion qui me saisissait, vraiment. Je sentais, c'était de la poésie, c'était sombre, c'était beau. Voilà, moi, c'est tout ça, tout mis au service d'une émotion, la voix, l'intensité que ça créait, ça m'a.
Okay.
Et aussi, évidemment, tous les. En fait, je crois que j'aime Eric Rutan très fort, donc oui, ce qu'il a fait chez Morbid Angel, j'adore. Hate Eternal, j'adore. Voilà, donc.
Et dans les groupes récents ou les concerts récents que tu as vus sur scène, quel est celui ou celle qui t'ont vraiment laissé.
En métal ?
Ouais, en métal.
Alors, en métal, j'ai pas vu beaucoup de choses récemment, je dois être sincère. Moi, j'ai adoré Pogo. Pogo Carcage Control, qui n'est pas du métal, mais je les adore. Je trouve qu'ils ont une super énergie en live et j'ai pris une grosse claque de son en les voyant. Et voilà, je crois que c'est un peu le groupe de ces derniers temps. En tout cas...
Après, en même temps, tu es pas mal en tournée, donc bon, quand on...
Hangman's Chair, je dois dire, on a fait des dates ensemble et j'ai redécouvert en les voyant, je me suis dit quand même qu'elle... c'est un descriptif à la con, mais c'est vrai qu'elle roule au compresseur. Mais... Et puis l'émotion, la créativité, les sons de gratte qui sont. Enfin, quand même, c'est hyper chiadé. Donc,
Hangman, ok, très bien. Bon, on va s'écouter, c'est ton choix, un extrait de Strapping Young Lad, donc le No Sleep Till Bedtime, qui est le live in Australia.
Ouais.
Et le morceau, c'est All Hail the New Flesh. On vient de s'écouter de Strapping Young Lad, All Hell the New Flesh, et on est parti pour Overkill. Alors Sun, Overkill, donc c'est le groupe ultime, le groupe ou le, enfin ça peut être un titre, mais ou un album, mais souvent évidemment il y a un artiste ou un groupe. Alors pour toi, si tu devais en garder qu'un,
Devin Townsend.
Alors encore lui.
Encore. Ouais. En fait, moi j'ai une sorte de trinité étrange, c'est que Michael Jackson vraiment, il m'a beaucoup inspiré. Courtney Love, Hole, les Riot Girls, toute cette veine un peu indie rock féminin m'a beaucoup inspiré. Il y a eu le métal extrême, mais je dois dire, Strapping Young Lad, vraiment à l'époque, c'était le point culminant de tout ça. C'était, moi, je m'en rappelle, quand j'avais 16 ans, j'étais un nouvel an tout pourri. À Dijon, c'était un nouvel an avec des potes, et puis à l'époque j'étais avec un petit copain, et puis il y avait celui d'avant qui était venu, alors il y avait une vieille bagarre, enfin c'était que des histoires, et puis tout le monde était de plus en plus bourré, et puis d'un coup j'entends, il y avait un DVD qui tournait, puis d'un coup j'entends, je me dis putain ça mouline bien, parce qu'évidemment Gino Glenn à la batterie quoi, puis j'entends un truc totalement voilà, main droite pied là qui déchire, et puis là accord majeur, un chant, des chœurs à la Queen, je me dis mais non mais c'est pas possible, faire un truc vénère, brutal, mais en plus avec des accords majeurs, c'est exactement ce que j'avais toujours voulu que quelqu'un fasse en fait. Et du coup j'ai regardé le DVD en boucle toute la nuit, j'en avais plus rien à foutre des ex qui te battaient et tout ça, j'ai dit allez vas-y. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment Devin Townsend globalement.
Bah, génial, bah, écoute, c'est l'occasion en tout cas d'en écouter, donc on va s'écouter de Devin Townsend Project, Addicted, donc extrait de l'album Addicted, donc 2009. Donc on vient de s'écouter de Devin Townsend Project Addicted, donc extrait de son album Addicted, hein, que je vous recommande, 2009, très bon choix. Et on est parti pour un petit éclairage sur la scène française.
Sun, on aime bien faire un petit éclairage, comme disait Yann, sur la scène française, parce qu'on trouve important de la valoriser, évidemment, puis qu'elle est évidemment riche, comme tu en es à l'image justement de cette scène. Est-ce que toi, tu as eu un rapport un peu particulier à cette scène? Est-ce que c'est une scène que tu as suivie? Alors, évidemment, tu étais en Allemagne plus jeune, mais est-ce que quand tu es arrivé en France, il y a des groupes en particulier qui t'ont inspiré, influencé, que tu as suivi?
À fond. En fait, quand je suis arrivée en France, je suis allée direct traîner avec les mecs de Pitbulls in the Nursery à Rambouillet. J'arrêtais pas de les embêter pour faire leur première partie. Bon, moi je galérais à trouver des musiciens parce que j'étais très jeune et que dans ma classe, je forçais des batteurs à acheter des doubles pédales qu'ils allaient jamais utiliser. Enfin voilà. Donc j'ai traîné un petit peu dans ce cercle avec les Pitbulls qui, du coup, avaient fait leur premier album. Ça a été produit par Gojira. Donc voilà, je traînais un petit peu dans cette scène. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, par mon amie Shelly, j'ai eu la chance de côtoyer les Scarves. Et de rencontrer Dirk, de rencontrer aussi Olivia Chemama, bassiste, avec laquelle on avait fait pendant 2 secondes un projet de death féminin qui n'a jamais vu le jour. Mais, et du coup, moi, je dois dire, j'ai toujours été époustouflée par Scarve. L'album Irradiante, moi, il m'a vraiment énormément influencée. J'ai trouvé que c'était super vénère, mais c'était beau, les harmonies étaient belles, il y avait des mélodies, en même temps, c'était pas kitsch. Voilà, il y avait tout ce que j'aime. Alors, bon, après, comme souvent, ça se défait, il y a des opportunités. Puis aujourd'hui, bon, bah, dire qu'il a super bien réussi, Megadeth, ça... C'est génial, bravo vraiment à lui. Mais je voulais aussi dire un petit mot du coup pour Guillaume Bidot,
ouais, bien sûr.
Qui est pour moi vraiment, voilà, qui nous a quittés cette année. Et qui était vraiment pour moi un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur chanteur de métal que la France a fait. Vraiment, c'était un chanteur incroyable. Déjà, c'était un chanteur à part entière incroyable, juste voix claire, voilà. Aux côtés de Pierrick Valence, bien sûr, ils étaient un super duo dans Scarve, mais voilà, Guillaume, c'était pour moi un très grand chanteur. Il m'avait donné à l'époque de très bons conseils, sans trop s'en rendre compte, je crois, parce que c'était toujours entre deux blagues débiles. Et il m'avait donné des très bons conseils, et à une époque où je savais pas trop vers qui me tourner, quoi faire, il avait été très gentil avec moi, il m'avait répondu, il avait parlé avec moi. Du coup, voilà, je voulais lui rendre un petit peu hommage aussi, parce que...
Ouais, bah, fais bien, ouais, c'est vrai. Ouais.
Donc Scarve, un groupe qui est né du côté de la Lorraine, et qui a sorti ses premiers albums fin 90, fin début 2000, mais qui existait depuis 93, donc qui est vraiment de cette vague death française, death technique, enfin les premiers en fait, dans la foulée des Loudblast, etc., qui étaient plus sur du death plus traditionnel, mais effectivement, qui ont commencé à aller vers des choses plus techniques. Et à noter quand même qu'ils ont fait des grosses tournées, notamment une tournée internationale avec Meshuggah en 2005. Ouais. Donc voilà, avant que le groupe s'arrête un peu d'avancer en 2007, 2008, 2009, puis après Dirk est parti, etc.
Voilà. Bon, Guillaume Bidot, du coup, a quand même été dans Mnemic, fait la première partie de Metallica. Enfin, il a fait de très grandes choses, mais j'ai toujours eu cette sensation, peut-être que... évidemment, on l'a pas oublié, mais quand même, on pourrait en parler un peu plus.
C'est pas forcément le groupe qu'on a le plus entendu, dont on a le plus entendu parler, ou qui a été le plus mis en avant, c'est sûr. C'est sûr. Je pense que ça correspond à un moment où la scène était moins mise en avant, probablement aussi.
Ouais.
Qu'elle ne l'a été dans les années 90 et qu'elle ne l'est à nouveau maintenant.
Maintenant, ouais. Ouais, parce qu'en plus, c'était vraiment à l'époque où Irradiante est sorti, je m'en souviens, on mettait Gojira et Scarve au même niveau, en fait. Ouais. On se disait, waouh, ça, c'est les deux groupes qui déchirent tout. Et puis bon, ben voilà, après, c'est la vie. Hein.
Ouais, exactement, exactement. Alors, je vous propose d'écouter justement un petit morceau de cet album Irradiante de 2004, donc le titre Molten Scars, c'est ça ? Voilà, qui est le choix de Sun aujourd'hui. titre Molten Scars de l'album Irradiant, paru en 2004, album de Scarve. Et je vous propose d'écouter, puisqu'on est dans la scène française évidemment, un morceau de Sun. Donc le morceau c'est John and I, un morceau qui date de 2022.
Écoute papa, j'ai pas fait ça.
On vient d'écouter un morceau de notre invité Sun. Le morceau c'était John and I. Et ça vient juste de sortir, donc je vous invite à l'écouter plus attentivement. Et on passe tout de suite à la rubrique Wall of Death.
Sun, dernière rubrique de l'émission de cette Metal Story qui t'est consacrée évidemment.
C'est la plus mouvementée.
Alors, première question. Donc, tu connais la règle, hein, tu réponds rapidement, sans trop réfléchir. Après, si tu veux développer, c'est toujours possible. C'est toi qui en décides. T'es plutôt Last Christmas de Wham ou All I Want for Christmas is You?
All I Want for Christmas is You.
De la grande Mariah Carey.
Ah bah bien sûr. J'adore, j'ai fait la cover moi-même.
Alors, t'as fait la cover, en effet, qui est très bonne.
Et j'étais obligée de brutaliser cette chanson. Je pouvais pas m'en empêcher.
Ouais, j'invite vraiment les auditeurs à l'écouter, c'est vraiment chouette. En plus, c'est la période.
C'est sur Spotify.
C'est sur Spotify, exactement.
J'ai pas le droit, mais j'ai fait quand même.
Pascal, je te laisse la parole.
Alors, si tu pouvais passer une journée ou une nuit, éventuellement, avec une personnalité, un artiste de ton choix. Un ou une, hein, bien sûr.
Peut-être George Fisher, bizarrement.
Ah.
Ouais, il a l'air tellement sympa. Ah ouais. Je l'aime trop et puis j'aimerais trop discuter technique vocale avec lui parce que quand même, il est extrêmement impressionnant en gros.
Ouais.
Donc,
mesurer son tour de cou peut-être aussi.
Ah ouais. Ah ouais. Ah, mais c'est incroyable. Coucou de taureau. Il n'y a plus de limite entre le menton et.
C'est ça,
ouais.
C'est ça.
Donc voilà lui. Et puis il a l'air très sympa. Je le suis sur Instagram. Il y a plein de photos avec ses filles habillées en rose et tout. Donc voilà.
Très bien.
Alors, question suivante. T'es plutôt Wait and Bleed Slipknot ou la poupée qui fait non?
Plutôt. Ah, dur. Plutôt la poupée qui fait non. Alors, c'est deux chansons que j'ai cover aussi.
Exact.
Wait and Bleed. Alors, moi, j'adore le premier album de Slipknot. Je sais que c'est un grand débat. Mais j'aime pas trop celle-là. Mais c'était la plus facile à reprendre. Mais j'aime bien parce que Ross Robinson, il a fait une super prod, très punk, j'ai adoré. Mais voilà, c'est peut-être pas ma chanson préférée. Et La Poupée qui fait non, alors il se trouve qu'en fait, Michel Polnareff a adoré cette cover et du coup m'a invité chez lui dans sa maison et
incroyable.
Tout ça. Voilà, et en fait, c'est vraiment un vieux de la vieille comme on l'imagine, très rock, très cool. Donc voilà.
Ouais, donc voilà, donc un coup de cœur qui t'a amené une rencontre géniale.
Ouais.
T'es plutôt Covenant de Morbid Angel ou Raining Blood de Slayer?
Ah, Raining Blood, Slayer. Mmh. Ouais. Covenant, c'est. Alors, je suis plutôt Morbid Angel que Slayer,
ouais.
Mais Covenant, c'est typiquement pas ma période. Moi, encore une fois, je suis très Eric Rutan et tout.
Mmh.
Enfin, je crois qu'il n'y était pas, sinon il n'y était pas. Et du coup, Raining Blood, voilà, c'est gros classique.
Mais du coup, ton album préféré de Morbid?
Morbid. Gateways to Annihilation.
Mmh.
Ouais, vraiment la période mid-tempo, down-tempo avec la grosse double, tapis double. Moi, c'est.
C'est ton kiff.
Ouais, c'est mon kiff.
Il y a un petit Word of Slime Leaves que c'est quand même.
Oh là là, bah, magnifique.
Quand même.
Voilà.
Alors, dernière question. Dans le style, tu préfères une Taylor Momsen, des Pretty Reckless, ou Alissa Whiteglaz, Dark Enemy?
Alissa Whiteglaz. Ouais. Alors Taylor Momsen, j'ai pas encore approfondi, c'est-à-dire il faut vraiment que j'écoute. Pour le coup, je peux pas trop me prononcer parce que j'ai pas trop écouté de Pretty Reckless.
Elle est un peu dans le mood Courtney, quoi, tu vois, c'est rock
mais pas très indie. Moi, ce que j'aime chez Courtney, c'est le côté indie.
Ah oui, c'est le côté punk,
ouais. Et moi, je crois que c'est peut-être ça qui m'a pas trop amené vers Pretty Reckless, c'est le côté très rock and roll, pentatonique, Gibson, tout ça. Moi, je suis artiste Fender déjà, donc je suis très Fender. Et ouais, et c'était quoi l'autre?
Alissa, ouais.
Ouais, alors moi ce serait Angela Gosso. Hein.
Oui, Angela Gosso, il fallait en choisir une, mais dans le genre quoi.
Ouais, Gosso parce que l'énergie quoi, l'énergie, la force, la conviction. Moi j'ai vu en live, oh là là, à l'Élysée Montmartre, elle était à fond. Pareil, peut-être vocalement pas la plus technique quoi, mais avec le plus d'énergie, donc j'ai adoré. Et Alissa Whiteglaz, moi j'ai beaucoup aimé. À l'époque de son autre groupe, c'était comment ? The Agonist. Et voilà, et j'aime toujours maintenant, mais je suis pas très culture shred, solo de guitare.
Ouais.
Du coup, le Arch Enemy, c'est toujours un peu sucré-salé, ça dépend du morceau, quoi.
C'est sûr. Bon, bah super, merci beaucoup Sun pour la franchise,
la sincérité,
la rapidité de tes réponses. Pascal, c'est le temps venu de nous quitter.
Bah ouais, c'était une très belle émission, merci beaucoup.
Merci à vous.
Avec beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur.
Exactement.
Merci à vous de m'avoir invité, c'est un grand plaisir.
Non, mais le plaisir est vraiment partagé. Exactement. On remercie nos partenaires, Pascal.
Bah oui, toujours l'Adami qui nous soutient depuis le début, toujours là, et la SACEM aussi qui fait partie de nos partenaires. Pour la scène française, qu'on essaye d'aider à notre petite échelle.
Exactement. Bah, merci et à très vite pour une prochaine Metal Story.
On est en mission pour le Seigneur.